SBS Radio.
D'abord, les grands titres de ce dimanche, la disparition du journaliste saoudien en Turquie et les États-Unis menacent une forme de punition contre l'Arabie saoudite. En Australie, un coup de pouce financier de 50 millions de dollars pour les services de santé mentale. L'opposition est ouverte à un débat sur la question de savoir si les écoles religieuses devraient pouvoir renvoyer les enseignants gays. Eh bien, on commence par la disparition du journaliste saoudien en Turquie et le président américain Donald Trump, dans une interview à la chaîne américaine CBS, déclare qu'il parlera au roi de l'Arabie saoudite. Jamal Khashoggi a disparu il y a une semaine et quand il est entré dans le consulat saoudien en Turquie et il n'est jamais ressorti. Les autorités turques pensent qu'il a été assassiné, ce que rejettent les officiels saoudiens. Écoutez le président américain Donald Trump.
Pour l'instant, ils démentent, et ils démentent vigoureusement. Alors, est-ce que ça pourrait être eux? Oui. Et dans un futur pas très lointain, je pense qu'on connaîtra la vérité.
Est-ce que vous pourriez envisager des sanctions?
Eh bien, ça dépend de quel genre de sanctions. Je vais vous donner un exemple. Ils commandent des équipements militaires. Tout le monde, à travers le monde, voulait décrocher cette commande. La Russie la voulait, la Chine, nous on la voulait aussi. Nous l'avons eue, et nous l'avons eue entièrement. Donc, Boeing, Lockheed... Je ne veux pas nuire aux emplois. Je ne veux pas perdre une commande pareille. Et vous savez, il y a d'autres manières de punir. C'est un mot très dur, punir, mais c'est vrai. Beaucoup de choses sont en jeu, et surtout peut-être parce qu'il s'agit d'un journaliste. Peut-être que cela vous étonne que je dise ça, mais il y a quelque chose de vraiment terrible et révoltant s'ils sont impliqués. Donc on va voir. On va aller jusqu'au bout de cette affaire, et il y aura un châtiment sévère.
Voilà le président américain Donald Trump. Revenons sur le déroulement de cette disparition avec Anne Loer pour Radio France Internationale.
Cela fait plusieurs jours que les officiels turcs affirment aux médias locaux et internationaux, sous couvert d'anonymat, disposer d'enregistrements prouvant que Jamal Khashoggi a été torturé et tué à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite. Si de telles preuves existent, la question est de savoir comment les autorités turques se les sont procurées. Le quotidien Sabah, pro-gouvernemental, soutient que Jamal Khashoggi aurait enregistré son interrogatoire grâce à son Apple Watch, une montre connectée, et aurait envoyé cet enregistrement vers son compte iCloud et vers l'iPhone qu'il avait confié à sa fiancée. Beaucoup de points d'interrogation entourent toutefois cette théorie. Le journaliste avait-il encore sa montre sur lui au moment de l'interrogatoire présumé? Si oui, a-t-il pu l'enregistrer? Et surtout, a-t-il eu le temps et la possibilité technique d'envoyer ses fichiers? D'autres spéculations circulent, certains médias avançant par exemple qu'Ankara disposait de micros dans l'enceinte du consulat. Preuve sonore ou pas, la Turquie continue d'insister pour fouiller le bâtiment en le traitant comme une scène de crime, ce que Riyad refuse pour l'instant.
Anne Loer pour RFI. Le pasteur américain Andrew Brunson est arrivé aux États-Unis après sa libération par la justice turque. Le président américain l'a reçu à la Maison-Blanche et a remercié le président turc. Andrew Brunson a vécu en Turquie pendant 20 ans et a été accusé d'avoir des liens avec les militants kurdes. Le pasteur rejette ces allégations. Écoutez le président américain Donald Trump.
We do not pay ransom in this country, at least any longer. We won't pay ransom. Otherwise, you have big problems and lots of things will happen, lots of bad things will happen. But I want to thank President Erdogan. We've been dealing and we actually, until this, we had a very good relationship. I was actually very surprised that we didn't work this out a couple of months ago. But it started in a different administration and they were not going to work out anything.
Voilà le président américain. Le pasteur Brunson a remercié Donald Trump et a offert une prière.
Lord God, I ask that you pour out your Holy Spirit on President Trump, that you give him supernatural wisdom to accomplish all the plans you have for this country and for him. I ask that you give him wisdom on how to lead this country into righteousness. I ask that you give him perseverance and endurance and courage to stand for truth. I ask that you protect him from slander, from enemies, from those who would undermine.
Voilà, c'était le pasteur Branson. En Australie, le ministre des Finances, Matthias Cormann, a rejeté les déclarations de l'ancien trésorier libéral, Peter Costello, selon laquelle la coalition manquait un plan économique et qu'elle parlait de l'économie, je cite, « au jour le jour ». Mr. Costello a déclaré cette semaine à Fairfax Media que le gouvernement opérait dans, je cite, un univers parallèle en promettant des réformes fiscales dans 10 ans. Mais le sénateur Matthias Cormann sur l'ABC déclare qu'il était complètement en désaccord avec Peter Costello et affirmait que le gouvernement avait un message clair.
What we've been working to achieve is to make Australia stronger, to make the economy stronger, to deliver more jobs, and indeed to ensure that our budget is on a strong and sustainable foundation and trajectory for the future, so that Australians can get a good job, a better job, have the best possible opportunity to get ahead. And you know what? We've been successful.
Voilà, c'était Matthias Cormann. Les écoles chrétiennes en Australie rejettent les appels à faire voter un projet de loi fédéral qui vise à protéger les enseignants gays qui peuvent être renvoyés et qui protégerait aussi les étudiants qui risquent d'être expulsés à cause de leur identité sexuelle. Mark Spencer de Christian Schools Australia déclare que son établissement n'a jamais expulsé un seul étudiant à cause de sa sexualité, mais il pense que son école puisse garder une certaine discrétion sur les décisions de recruter des enseignants.
We want to provide an education that covers the spiritual, the emotional, the relational aspects, not just the academic. And to do that, we need to have people who share our values and beliefs and can communicate those to students in what they teach and how they live.
Mark Spencer de Christian Schools Australia. Tania Plibersek, la chef adjointe du Parti travailliste, déclare que le pays devrait débattre la question si les écoles religieuses peuvent renvoyer ou ne pas employer des enseignants gays.
They want people who fit with the school's ethos, that are able to support the students learning in an environment that supports the ethos of the religious organisation that we're talking about. But by and large, schools aren't looking into people's personal lives in this way either. So we're up for that conversation with schools too.
Tania Plibersek, la chef adjointe du Labour. Des milliers de jeunes avec des problèmes de santé mentale pourront obtenir de l'aide plus facilement grâce à un financement de 50 millions de dollars accordé par le gouvernement fédéral. La coalition a annoncé qu'elle renforcerait le financement de Headspace qui gère 107 centres de santé mentale pour les jeunes dans le pays. Les fonds supplémentaires s'ajoutent aux 95 millions de dollars que le gouvernement dépense déjà pour les centres chaque année et devrait aider les centres à employer davantage de personnel et à réduire les temps d'attente pour leurs services. Le directeur général de Headspace, Jason Tretoven, a déclaré que cet argent aiderait l'organisation.
Obviously, we've got more young people today than we did in the last decade, and we've also got more young people in psychological distress than perhaps there was in 2007. So we've got multiple factors occurring now. Headspace is vibrant. Headspace is extremely welcoming. Headspace is great for young people to come and have a very good chat, conversation, and this money will be all about helping them get the services they need earlier.
Walks to Remember, c'est ce dimanche en Australie pour le soutien des femmes qui ont fait une fausse couche et qui disent vouloir briser la stigmatisation et le silence associé à cette expérience. Des milliers de parents endeuillés en Australie participent à Walks to Remember ainsi qu'à des événements internationaux demain lundi pour sensibiliser le public. Jackie Mead du groupe de soutien de la fausse couche, du soutien à la mort du nouveau-né, a déclaré sur Sky News que de nombreuses personnes souffrent en silence.
We're not going to get to reducing numbers of stillbirth, miscarriages and newborn deaths until we better understand the causes. So we're really using this as an opportunity to call on government to fund research, but also make sure that they're well-funding services like SANS that support people going through this bereavement.
Une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche et environ 2000 bébés morts-nés naissent chaque année en Australie. En France maintenant, avec hier plus de 80 marches citoyennes en faveur du climat, à Paris, il y avait plusieurs milliers de personnes sur la place de l'Opéra et celle de la République. Reportage Anna Pielcarec pour Radio France Internationale.
Ils sont descendus dans la rue avec le mot d'ordre « Il est encore temps ». Dans le cortège, beaucoup de jeunes, des familles, mais aussi des personnes plus âgées. Hugo Viel est étudiant.
Aujourd'hui, les citoyens doivent prendre à bras le corps ce problème qui est le réchauffement climatique. Et les jeunes sont là parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Et donc, il faut dire aux responsables politiques qu'il faut se donner les moyens pour faire une transition vers une société plus écologique et plus sociale.
Xavier Persan, la quarantaine a aussi tenu à être là.
On est père de famille, on est responsable. Il fait 28 degrés aujourd'hui, le 13 octobre. Et on sait qu'on n'en est qu'au début de quelque chose. Et on sait que c'est un peu tard pour freiner la machine. Mais si on peut être debout sur le frein, soyons-le tous ensemble.
Jean-Pierre Worms est retraité.
Je suis inquiet pour l'avenir que l'on est en train de préparer pour nos enfants et petits-enfants. On épuise les ressources vivantes dont on est totalement solidaire. À terme, on aura un univers qu'on en aura tué dans sa capacité de porter le développement, y compris le développement humain.
Il y a 5 jours à peine, le GIEC a prévenu. Si le monde n'engage pas de transformation radicale pour limiter le réchauffement de l'atmosphère à 1,5 degré, les changements climatiques seront irréversibles.
Anna Piekarek pour RFI. En Allemagne, près de 250 000 personnes ont défilé hier contre le racisme à Berlin, Hambourg et à Munich. Une élection régionale en Bavière aura lieu ce dimanche qui pourrait faire basculer la région à l'extrême droite. Reportage Pascal Thibault pour RFI.
La Bavière n'a jamais été un fief du SPD. Les derniers sondages lui accordent 10 à 11% pour ce dimanche. Bien que la CSU soit en net recul, le SPD ne parvient pas à profiter de cette faiblesse des conservateurs. Les deux partis gouvernent ensemble à Berlin dans une coalition très impopulaire. Le SPD n'est pas perçu comme une force crédible et synonyme de renouveau. Ce sont à gauche les Verts qui ramassent la mise avec un score sans précédent dans les sondages. Si le SPD a mené campagne jusqu'au bout, le parti ne se fait plus d'illusions. Le mauvais score attendu en Bavière ne va pas remonter le moral des troupes social-démocrates. Après un échec historique aux dernières élections générales de septembre 2017, les derniers sondages sont catastrophiques avec 15% pour le SPD. La direction du parti doit maintenant prier pour que la prochaine élection régionale dans 2 semaines en Hesse, où le SPD est traditionnellement plus fort, ne débouche pas sur un fiasco à la bavaroise. La base du parti, qui a accepté à contre-cœur une nouvelle grande coalition, pourrait se rebeller, mais de nouvelles élections reviendraient aujourd'hui à un harakiri électoral.
Pascal Thibault pour RFI. Le Rwanda est le génocide des années 90 et après 20 ans d'enquête, le parquet de Paris a requis un non-lieu pour 8 personnes poursuivies en France pour l'attentat qui a coûté la vie en 1994 au président rwandais et qui a déclenché le génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes. Les précisions de Michel Arsenault pour RFI.
Les extrémistes hutus sont à l'origine du génocide rwandais. Mais qui est à l'origine de l'attentat qui lui a servi de prétexte? C'est la question à laquelle des juges d'instruction français tentent de répondre depuis 20 ans. Un premier juge, Jean-Louis Bruguière, a accusé le Front patriotique rwandais, la rébellion de Paul Kagame, d'être à l'origine des tirs qui ont abattu l'avion présidentiel. C'est lui qui a délivré, en 2006, les mandats d'arrêt contre les 9 responsables du FPR, dont il est question aujourd'hui, dans la demande de non-lieu. Le parquet souhaite l'abandon pur et simple des poursuites contre eux, notamment contre le ministre rwandais de la Défense, James Kabarebe. Dans un réquisitoire définitif de 94 pages, le procureur insiste surtout sur l'absence d'éléments matériellement incontestables. La décision finale sur la tenue ou non d'un procès est maintenant entre les mains des juges d'instruction du pôle antiterroriste. Un non-lieu contribuerait au rapprochement entre la France et le Rwanda, déjà constaté depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.
Michel Arsenault pour RFI. En Malaisie, Anwar Ibrahim, l'ancien opposant, a remporté une élection partielle hier, 5 mois après sa libération d'une prison. Le poste de Premier ministre lui a été promis par son ancien rival Mahathir Mohamed. Les deux seront sous la même bannière politique après avoir été des rivaux pendant plus de 20 ans de politique. Anwar Ibrahim est ravi du soutien obtenu hier à l'élection partielle, soit 71% en faveur de sa candidature.
I am of course extremely pleased and humbled by the results. More convincing than what was observed in the last general elections.
Anwar Ibrahim. Et maintenant, l'analyse de David Delfoli, qui est enseignant à Sciences Po Lille. Il est sur Radio France Internationale.
C'est une suite logique de la séquence qui a lieu depuis le mois de mai, d'abord avec le pardon royal. Ensuite, deuxième étape, il a récupéré la présidence de son parti non contesté, donc il était le seul candidat. Et là, c'était annoncé déjà depuis le mois de mai qu'il allait tôt ou tard retrouver un siège. Par contre, quand on regarde un peu plus en infra et qu'on regarde à l'intérieur de son parti comment les choses se passent, c'est pas aussi simple pour lui que ça. Il ne fait pas du tout l'unanimité. Normalement, le scénario officiel est écrit comme ça, hein, où Mahathir va lui laisser un moment la place pour qu'il puisse accéder au poste de Premier ministre. Et ça, cette étape-là, elle est loin d'être faite. Mahathir, en coulisses, il a pas très envie de ce scénario. Il y a une autre inconnue aussi, c'est qu'on ne sait pas combien de temps Mahathir va rester. Moi, j'ai plusieurs membres du gouvernement qui m'ont carrément dit, mais on espère qu'il va rester plus de 2 ans. On sait à qui on a affaire. C'est un gage de stabilité et de réussite peut-être à moyen terme pour la coalition.
David Delfoli de Sciences Po Lille sur RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, maximal de 20 degrés. Adélaïde, 29. Melbourne, 27. Hobart, 23. Canberra, 19. Sydney, 21. Brisbane, 21. Cairns, 31. Darwin, 33. Et à Alice Springs, maximal de 35 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. La disparition du journaliste saoudien en Turquie et les États-Unis menacent une forme de punition contre l'Arabie saoudite. En Australie, l'opposition est ouverte à un débat sur la question de savoir si les écoles religieuses devraient pouvoir renvoyer les enseignants gays. Fin du journal, merci de rester avec nous pour la suite du programme.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.